Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Samedi prochain, le 22 février, on célébrera le 150e anniversaire de la naissance de Jules Renard, l'auteur de Poil de Carotte, une personnalité attachante que Franck Ferrand a eu envie de faire revivre pour nous cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Très belle figure de la belle époque que celle de cet homme, un peu marginal, très timide et qui confie à son journal avec un humour féroce tout ce qu'il n'a guère l'occasion d'exprimer ailleurs. On peut dire de Jules Renard qu'il est amoureux de la littérature, que c'est un anticlérical acharné, fervent dreyfusard, tout en se confessant des pulsions anti-juives. Jules Renard est un personnage complexe, parfaitement de son temps, dont je vais essayer d'élucider le mystère en compagnie de mon invité, l'amoureux du théâtre de 1900, Henri Gidel.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que nous a posée Cédric sur le site internet d'Europe 1 à propos de l'origine du point zéro situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris.
Eh bien oui, voilà une question amusante. Je ne crois pas qu'il en soit fait mention dans le fourmillant journal de Jules Renard. Et pourtant, vous allez le constater, il est question d'à peu près tout dans ce journal.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Imaginez un personnage qui aurait vécu à la belle époque en étant l'ami d'Alphonse Allais, d'Edmond Rostand, de Tristan Bernard, de Lucien Guitry, de Madame Sarah et de Courteline, et pousser le fantasme jusqu'à imaginer ce monsieur tenant un journal, tranquillement, chez lui, journal où tous ces monstres sacrés ressusciteraient sous nos yeux éblouis et curieux. Eh bien, cet homme existe, c'est Jules Renard, et le document aussi, c'est son fameux journal. Il aurait eu 150 ans samedi, vous l'avez dit, Céline, monsieur Renard. Il était né à Châlons-du-Maine, en Mayenne, le 22 février 1864, mais il avait surtout connu, dans l'enfance, la Nièvre et Chitry-les-Mines, où il est revenu vivre par la suite, du reste. Son père s'était installé à Chitry-les-Mines, c'était un entrepreneur de travaux publics. On était à l'époque, vous savez, de l'explosion du chemin de fer. C'était le chemin de fer tous azimuts et évidemment les ingénieurs des ponts et chaussées étaient utilisés partout. La campagne nivernaise, c'est peu dire qu'elle l'aura marqué, le petit Renard, si je puis dire. Lui-même, du reste, deviendra donc maire de Chitry en 1904, un maire pacifiste et anticlérical, nous aurons l'occasion d'y revenir. Pierre-Jules, c'est son vrai prénom, était le petit frère d'Amélie et de Maurice, un enfant mal aimé qui vite est devenu, comme un jour Poil de Carotte, le souffre-douleur de la famille. Un malheur n'arrive jamais seul, il va devoir essuyer bien des tempêtes dans sa vie. Le suicide du père d'un coup de fusil en 1897, la mort brutale de son frère Maurice 3 ans plus tard, le suicide probable de la mère qu'on va retrouver au fond d'un puits en 1909, en voilà quand même une gentille petite famille, vous voyez. On trouve qu'il y a quelque chose de sombre dans les écrits de Jules Renard, mais le moins qu'on puisse dire est qu'il a eu bonne source ou puisé. Le bonheur familial, Jules le connaîtra pourtant, mais dans le foyer qu'il va créer lui-même avec celle qui dans le journal sera Marinette, Marinon, Rinette. Ils auront 2 enfants, Jean-François, dit Fantec, et Julie-Marie, qu'on appelle Baille à la maison. Tout à l'heure, en compagnie d'Henri Gidel, nous allons parler des grandes œuvres de Monsieur Renard. Les Cornifleurs, où il raconte l'histoire d'un littérateur parasite. Histoire naturelle, où il humanise les animaux et, en quelque sorte, où l'on peut dire qu'il animalise les hommes. Elles seront mises en musique par Maurice Ravel en 1906, ces fameuses histoires naturelles. Et puis, bien sûr, Poil de Carotte, adapté pour le théâtre avec un énorme succès. Poil de Carotte, c'est le grand succès de la scène parisienne en 1900. Seulement moi, pour le moment, si vous le voulez bien, c'est au journal que j'aimerais consacrer les minutes qui viennent. Un journal rédigé entre 1887 et 1910, autant dire exactement sur toute la durée de ce qu'on va appeler justement la Belle Époque. Si on devait dire qu'est-ce que c'est que la Belle Époque, c'est, on pourrait presque dire, c'est cette période qui va de 1887 à 1910. La Belle Époque, c'est la période couverte par le journal de Jules Renard. Alors évidemment, on peut dire dire que ce journal de Jules Renard est aujourd'hui considéré presque unanimement comme son grand chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre posthume, hein, puisqu'il ne paraîtra qu'assez tard, en 1925-1927. Le grand auteur y a rassemblé des réflexions souvent féroces sur le monde littéraire, sur la société de son temps. Il s'interroge sur l'écriture. Il n'en finit pas de déclarer son amour à sa petite famille, mais aussi et peut-être surtout à la nature. J'ai sous les yeux une bande dessinée qui a été tirée par Fred, vous savez, le grand dessinateur Fred, merveilleux, sur le journal. Ça s'appelle Le journal de Jules Renard, lu par Fred, c'est chez Dargaud. Et lui, bien entendu, se concentre essentiellement sur ce rapport extraordinaire à la nature. Imaginons un instant que ce journal intime n'ait pas été publié. Jules Renard ne serait somme doute que l'auteur de Poils de carotte. À mon avis, on ne parlerait même plus de lui, ou en tout cas on en parlerait peu. Si Jules se met à tenir ce journal en 1887, ce n'est pas un hasard, car 1887, c'est l'année de la publication du premier volume du journal des frères Goncourt. Et ça, c'est un exemple qui va faire école, pas seulement chez Renard du reste. Ce qu'il peut y avoir de vain dans l'entreprise de tenir comme ça son journal n'a pas échappé à Jules Renard, évidemment. C'est un homme toujours très lucide. Il s'y moque volontiers de sa propre vanité. Par exemple, quand il écrit, en novembre 1894, que son ambition est de taille à regarder par-dessus l'arc de triomphe, écrit-il. « Oui, je sais, ajoute-t-il, non sans humour, tous les grands hommes furent d'abord méconnus, mais je ne suis pas un grand homme et j'aimerais autant être connu tout de suite. » On le sent flatté, du reste, quand des jeunes gens lui adressent un compliment. « Des jeunes gens de 20 ans m'ont dit, écrit-il en 93, vous êtes plus fort que La Fontaine. Or, quand je répète cela, je dis, ils sont jeunes et candides, mais extraordinairement intelligents pour leur âge. Lorsque Daudet déclare voir en lui un Labruyère moderne, il s'empresse de rapporter le fait dans sa note du 1er décembre 93. Il est vrai qu'il avait toujours dans sa poche un exemplaire des caractères de Labruyère et qu'il rêvait, je cite, d'écrire un livre de caractères selon Labruyère, mais comique. Comique au sens que l'on pouvait donner à ce mot dans les années 1900, du reste, hein, c'est pas tout à fait le comique d'aujourd'hui, même si, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant pour nous dans la prose de Jules Renard, même s'il y a précisément l'humour qui est devenu l'humour de notre époque à nous.
Sur Europe 1, un extrait de La Gnossienne numéro 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au journal de Jules Renard.
Alors, Jules Renard rêve aussi de connaître le succès avec ses pièces de théâtre, bien entendu, quand elles sont jouées. Et me voilà tout fiévreux et j'ai dans les yeux un théâtre illuminé où je triomphe, écrit-il. Oh, les bonnes heures délicieuses que j'aurai. Il sera flatté d'être admis à la Société des gens de lettres, présidée par Zola, n'est-ce pas, à l'époque, en attendant d'être accueilli... pas tout à fait à l'Académie française, dont il rêvait pourtant depuis toujours, mais à l'Académie Goncourt en 1907. C'est aussi qu'en vérité, Monsieur Jules Renard, qui jadis a été cet enfant mal aimé, manque, mais alors manque cruellement de confiance en lui-même. Il note dans son journal « Qu'est-ce que ça me fait d'avoir du talent ? C'est du génie que je voudrais. Et ailleurs, je voudrais seulement avoir assez de talent pour qu'il me préserve de l'envie. » Il fait ce que nous appellerions une sorte de complexe d'infériorité par rapport à d'autres auteurs. Parlons de mon talent, dit-il. Il me suffit de lire une page de Saint-Simon ou de Flaubert pour rougir. Vous allez me dire qu'il ne se compare pas au premier venu. Ses livres, il publiera 22 ouvrages en 24 ans. Ses pièces ne remportent pas souvent le succès auquel il aspirerait. Et la conséquence immédiate de ça, c'est qu'il ne connaît pas, bien entendu, un niveau de vie, une aisance matérielle suffisante, en tout cas à ses yeux. J'aimerais gagner beaucoup d'argent, écrit-il en juillet 94. Il lui arrive d'emprunter des fonds à ses parents, à sa sœur, à son frère. Ça le mine, ça. « Je n'ai réussi nulle part », écrira-t-il un jour. On est le 29 novembre 1894. « Je n'ai réussi nulle part. J'ai tourné le dos au Gil Blas, à l'Écho de Paris, au journal, au Figaro, à la revue hebdomadaire, à la revue de Paris, etc. Pas un de mes livres n'arrive à un second tirage. Je gagne en moyenne 25 francs par mois. Si mon ménage reste pacifique, c'est grâce à une femme douce comme les anges. J'ai vite assez de mes amis. Quand je les aime trop, je leur en veux. Et quand ils ne m'aiment plus, je les méprise. Je ne suis bon à rien, ni à me conduire en propriétaire, ni à faire la charité. Parlons de mon talent, mon imagination. C'est une bouteille, un cul de flacon déjà vide. » C'est dur, hein, ça. Un auteur qui parle comme ça de lui-même, vous rendez compte? Alors évidemment, c'est noyé dans plein de petites notations qui se veulent amusantes, mais quand même, quelle noirceur dans tout ça. D'ailleurs, si on fait attention, on remarque dès les débuts du journal des phrases comme celle-ci. « Tu ne seras rien. Tu as beau faire, tu ne seras rien. Tu comprends les plus grands poètes. Tu les comprends, les plus profonds prosateurs. Mais bien qu'on prétende que comprendre, c'est égaler, tu leur seras aussi peu comparable qu'un infime nain peut l'être à des géants. » C'est pas parce que Jules Renard est dur envers lui-même dans son journal qu'il ne lui arrive pas très souvent de se montrer aussi cruel envers les autres. « Je vois la vie en rosse », écrivait-il. Cette rosserie est sans doute pour lui un moyen de se protéger. « J'ai du plaisir à m'envelopper d'épines », dira-t-il également. « Bah, après ma mort, quelqu'un s'apercevra bien qu'au fond j'étais bon », dit-il. Et d'ailleurs, et ailleurs, « quelquefois je me dis... Est-ce que je ne suis pas un mauvais homme? Il me suffit de penser au misanthrope qui n'est pas méchant. C'est difficile d'être bon quand on est clairvoyant. » Alors ça, on pourrait presque garder cette phrase-là et la mettre en exergue à tout le journal. C'est difficile d'être bon quand on est clairvoyant. Est-ce que le problème de Jules Renard dans la vie n'aura pas été, somme toute, d'être trop clairvoyant et de ne jamais mettre de voile entre ce qu'il avait sous les yeux et ce qu'il voulait en tirer? Il dit aux gens les choses telles qu'il les reçoit. Et c'est la raison pour laquelle il va peu à peu se brouiller avec tout le monde. On va le voir se brouiller tour à tour avec tous les grands auteurs de l'époque, avec Edmond Rostand, avec Catulle Mendès. Il va finir par se faire un ennemi de Lucien Guitry, dont il était pourtant au départ assez proche. Il y a quelque chose d'empoisonné, en quelque sorte, dans ce journal, qui du reste n'était pas destiné à être lu, en tout cas pas tout de suite. Monsieur Renard y évoque de bout en bout sa solitude. « Cette idée que j'ai 30 ans me navre », écrit-il le jour de son anniversaire en 94. « Toute une vie morte derrière moi. Devant une vie opaque où je ne vois rien, je me sens vieux, triste comme un vieux. Ma femme me regarde tout étonnée de me voir si sombre. Mon fantec me dit « Alors tu vieillis, papa ?» Et du dehors, personne ne m'écrit, ne m'adresse une preuve de sympathie, ne s'intéresse à ma lamentable aventure. » Ce qui ne l'empêche pas de déclarer 4 ans plus tard « J'aime la solitude, même quand je suis seul. » Ce qui est assez joli, un paradoxe à la Wilde. Ou encore « Si vous saviez comme je me sens bon quand je suis tout seul, comme j'ai toujours de bonnes relations avec moi. » Après tout, la solitude n'est-elle pas la condition essentielle de l'écrivain? Je pense que vous ne doutez plus un instant maintenant que Jules Renard, au moins, soit un grand écrivain. Donc, seul et sédentaire, Monsieur Renard, ne serait-ce que parce qu'il tire le diable par la queue, on peut dire qu'il n'est pas du tout un grand voyageur. À quoi bon voyager? Il y a de la nature, de la vie et de l'histoire partout, écrit-il. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas trouver ici ou là quelques regrets au sujet des voyages que Jules Renard n'a pas fait. Il faut voyager pour agrandir la vie, écrit-il. Les plus hauts artistes, n'est-ce pas, se trouvent dans le monde des commis voyageurs. Mais ce genre de regret s'éteint rapidement. Quiconque voyage beaucoup ne retient pas, assène-t-il. J'ai bien fait tout à l'heure la différence chez lui entre la famille subie par l'enfant et la famille choisie par l'adulte. Il n'a pas de mots assez tendres pour sa femme, pour son fils aussi d'une autre manière peut-être, pour sa petite fille dont il ne se lasse pas de citer les mots d'enfant. Vous savez, un faisan c'est un coq de château, dit Baye, note-t-il par exemple, quasiment en marge de ce journal. Mais alors, pour ses propres parents et pour sa propre famille, c'est beaucoup plus dur. Il est très dur avec sa mère. « Ah, que n'ai-je moi aussi en naissant coûté la vie à ma mère » dit-il. Vous vous rendez compte, il aurait aimé tuer sa mère, dit-il, au moment de sa naissance. C'est assez extraordinaire. Quant à son père, alors avec son père c'est plus subtil. Le jour où son père tombe malade, donc tard, hein, au tournant du XXe siècle, il dit qu'il commence seulement à l'aimer. Il se reproche de ne l'avoir pas compris. Et ailleurs il dit « Mon père, j'ai de remords de ne l'avoir pas aimé comme je devais parce que je souffre des mêmes choses dont il a dû souffrir. » Il dira plus tard « Je l'emmène promener avec moi à la pêche. » Partout. Il dit aussi « Je vais sacrifier à mon père quelques perdrix un matin où il part pour la chasse. Assis au bord du canal, face au cimetière, je fais lecture à la mémoire de mon père », écrit-il le 12 juillet 1898. En fait, dans ce père, il voit un véritable protecteur, une sorte de supérieur auquel le relie d'invisibles attaches, dira-t-il, et de souterraines racines. Il est là, ce père. Il est présent et de son propre fils, de Fantec, il dira un jour Fantec devient, le gamin a 19 ans, Fantec devient délicieux, parfois je l'aime comme s'il était mon père, dit-il. La famille, le quotidien, la campagne, les souvenirs, les états d'âme occupent bien des pages du journal, mais là il faut qu'on soit honnête. S'il n'y avait que cela, ça ferait évidemment une lecture délicieuse, mais je ne suis pas certain que nous serions ici à en parler plus d'un siècle après. Non, ce qu'il y a pour nous d'irremplaçable dans le journal de Jules Renard, et ça vous allez le voir dans un instant, ce sont les portraits qu'il brosse de ses plus célèbres contemporains.
Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur Jules Renard et son journal. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au journal de Jules Renard.
Alors, ce journal permet de découvrir quantité d'auteurs contemporains de Jules Renard. Beaucoup d'entre eux, célèbres à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, sont aujourd'hui peu lus, peu connus. Néanmoins, il y a quand même là-dedans quelques grandes figures qui émergent. Alors, disons-le, d'entrée de jeu, l'ombre qui plane sur le journal est sans conteste celle de Victor Hugo. « Je jure que je n'ai admiré et n'admire sans faiblesse qu'un homme, Victor Hugo », écrit-il. Il écrit ça sur le tard, à la fin de sa vie. « Sa dernière gerbe paraîtra en février 1902. Je ne demande que de vivre jusque-là. » Vous voyez, c'est une sorte, c'est son idole, disons-le. « Si l'on m'affirmait, preuve en main, que Dieu n'existe pas, j'en prendrais mon parti », écrit-il ailleurs. « Si Victor Hugo n'existait pas, le monde où se meut la beauté qui m'enivre deviendrait tout noir. » Il vit vraiment à travers Victor Hugo, Jules Renard, et il n'a pas eu la chance de le rencontrer. Il ne l'a vu qu'une fois, il l'a aperçu, et de manière décevante. Une seule fois, dit-il, Victor Hugo ne m'a fait aucun effet. C'est quand je l'ai vu. C'était à la reprise du Roi s'amuse. Il me parut vieux et assez petit, un peu comme nous nous représentions les plus vieux membres de l'Institut, qui doit être plein de ces petits vieux-là, dit-il. Il est en revanche familier des descendants de l'écrivain, ses petits-enfants. Plus tard, j'ai connu Georges et Jeanne Hugo. Je ne comprenais pas qu'ils pussent adorer un autre dieu que lui, disait-il. Comme si, en quelque sorte, il enjoignait la famille Hugo d'admirer davantage encore le grand-père qu'il ne pouvait le faire. Hugo, c'est pour lui le modèle par excellence. Il n'admet pas qu'on puisse le critiquer. « Critiquer Hugo !» écrit-il en novembre 1901. « Quand je regarde un coucher de soleil, qu'est-ce que cela me fait de savoir qu'il ne se couche pas et que c'est la terre qui tourne autour de lui ? Quand je lis Hugo, qu'est-ce que ça me fait de savoir s'il écrit comme ceci ou comme cela ? On ne critique pas Hugo, on l'admire, point final. » Alors les autres portraits qui se dessinent dans le journal, évidemment, sont nettement moins flatteurs. Celui de Paul Claudel, par exemple, est très contrasté. Il admire sa lecture à voix haute de La Bruyère, mais il devine en lui le profond antisémite. « Claudel déjeune, écrit-il, il parle du mal que l'affaire Dreyfus nous a fait à l'étranger. Cet homme intelligent, ce poète sent le prêtre rageur et de sang âcre. Il a le poil rare et regarde en dessous. Son âme a mauvais estomac. Il revient à son horreur des Juifs qu'il ne peut ni voir ni sentir. » Il lit par ailleurs avec plaisir Maupassant. Il apprécie la modestie de l'écrivain normand, mais il n'éprouve pour lui aucune admiration véritable. je vous fais grâce d'un certain nombre de jugements, mais c'est toujours en demi-teinte. Et c'est toujours un peu... Ah, il y a une forme d'ironie caustique dans les jugements qu'il porte sur les autres auteurs. Quant à Schwob, Marcel Schwob, il rend hommage à son intelligence, à ses talents de conteur, mais il souligne ses limites, à commencer par une insupportable satisfaction de soi. Quand Jules Renard est à Paris, il participe volontiers à divers événements mondains de la capitale, et notamment il assiste à la création d'œuvres théâtrales, après tout, c'est quand même son métier à lui. Et il dit, par exemple, à la note du 10 décembre 1896, il nous dit sa déception lors de la première très agitée du Burroi d'Alfred Jarry. « Dès le milieu du premier acte, on sent que ça va devenir sinistre », écrit-il. « Au cri de merde, quelqu'un répond mangre et tout sombre. Si Jarry n'écrit pas demain qu'il s'est moqué de nous, il ne s'en relèvera pas. Et nous nous sommes tous trompés, car si je savais qu'à la lecture du Burroi, Huburoi résistait mal jusqu'au bout, je ne prévoyais pas cet effondrement sur scène. » Il livre en revanche son enthousiasme à découvrir Cyrano de Bergerac. On est en décembre 1897. Ainsi, il y a un chef-d'œuvre de plus au monde, dit-il. Et en même temps, on se rend compte, lorsqu'on lit de très près le point de vue qu'il porte sur cette pièce, qu'en fait, il est beaucoup plus critique qu'il n'en a l'air, et il va même se rendre carrément désagréable avec Edmond Rostand, lui disant « La Samaritaine, c'est de la poésie. Cyrano, en quelque sorte, c'est de l'opportunisme. » C'est un peu comme ça qu'il juge les choses. Il n'y connaît rien à la musique par ailleurs, alors il est d'une violence avec Wagner. La Valkyrie, dit-il, c'est l'ennui, le carton et la niaiserie du feu de Bengale. Il n'aime pas non plus ce que Ravel va faire de ses célèbres histoires naturelles. « Je n'ai jamais regardé un tableau, dit-il par ailleurs, je ne m'en vante pas, je le fais quand même un peu exprès, je me limite le plus que je peux, sourd à la musique, aveugle à la peinture. » Et alors ce qu'il dit de Cézanne est violent, Toulouse-Lautrec n'en parlons pas, les nymphéas de Monet pour lui c'est de la peinture pour femmes. Et en quittant une exposition, il écrit « En sortant, je vois un merle noir à bec jaune, tout seul, au milieu d'une tache d'ombre écartée sur une herbe verte. Eh bien, voilà de la peinture !» Ah, cette espèce d'extrême lucidité, d'ultra-réalisme qui fait que Monsieur Renard ne peut pas accepter les autres, d'une certaine façon. Il se lâche, hein, parfois. « Abba Mendès, dit-il, en parlant du poète Catulle Mendès, qui, après s'être fondu en eau à m'entendre gueuler, va réparer ses forces dans une brasserie et les reperdre ensuite avec des grues. Abba Sarah Bernard, la grande passionnée, qui aussitôt après être morte au cinquième acte, se relève et court à la caisse pour savoir combien ça lui a rapporté de mourir pour nous. » La mort, du reste, c'est son obsession, et voilà ce qu'il écrira à la fin de sa vie. « Crise, souffle précipité, dégoût universel, la mort peut venir dans 1 heure ou dans 10 ans, dire que j'aime mieux dans 10 ans, point d'exclamation. Encore une fois perdu l'équilibre, je touche le fond. Tout à coup, guérison, si je travaillais, la mort proche, on sent le poison. Ce n'est presque plus du style, c'est déjà quelque chose comme la mort. Il va mourir à Paris le 22 mai 1910 et sera enterré civilement, bien entendu, à Chitry. » Bonjour Henri Gidel, et bien avec vous nous allons découvrir toutes les autres facettes du personnage Jules Renard.
Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, de Jules Renard avec votre invité Henri Gidel, biographe qui a déjà publié de nombreuses biographies chez Flammarion, dont Feydeau ou encore Les Deux Guitry.
Vous êtes Henri Gidel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des grands biographes de cette époque. Vous connaissez cette période 1900 comme si vous y aviez vécu. C'est assez étonnant. Et on peut dire que Jules Renard, finalement, n'apparaît dans ce paysage qu'un peu tard et peut-être à la lumière de son journal, d'une certaine manière. C'est assez étonnant. Alors j'ai relevé dans ce journal beaucoup de vacheries. Il est particulièrement acide envers les dramaturges, envers les auteurs de théâtre. Il y a un petit peu de jalousie là derrière, non ?
Oui, bien sûr. Au fond, vous savez, justement, moi qui ai étudié qui ai fait toutes ces biographies, qui ai étudié tous ces gens-là, la jalousie, l'envie la plus commune...
C'est universel.
Absolument universel. Et elle est peut-être encore plus accentué chez ces personnes-là. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux querelles de pédants que l'on trouve chez Molière, Vadius et Trissotin.
Oui, c'est ça,
tous ces gens qui s'engueulent, qui se jalousent.
Ces dramaturges déjà se jalousaient au XVIIe siècle, après
absolument,
tout.
Absolument, mais absolument. Et au fond, ça n'est pas exceptionnel. Mais ce qui, en revanche, est exceptionnel, c'est d'en avoir parlé autant et avec autant de lucidité, avec autant de franchise, et aussi ne pas s'être épargné soi-même, avouer lui-même qu'il était jaloux, qu'il était envieux des autres.
C'est-à-dire
qu'il ne s'est pas épargné.
Sa lucidité, sa clairvoyance l'amène à parler de tout le monde avec une espèce de franchise brutale, en vérité.
Mais absolument.
Il a assisté à la première de Cyrano de Bergerac le 28 décembre 1897. Donc il fait partie des premiers spectateurs.
Oui.
Et à l'époque, cette pièce a un succès dont on ne peut même plus avoir une idée aujourd'hui. Le président de la République vient en personne assister à une représentation, il remet la Légion d'honneur à Edmond Rostand, qui va être élu quasiment par acclamation à l'Académie. Enfin, c'est un succès phénoménal. Et voilà ce que il a pris son temps. Hein. 3 jours plus tard, voilà ce qu'écrit Jules Renard dans son journal. Il n'y a qu'un poète, c'est Rostand, a dit Madame Mulfeld. Là, je suis obligé de protester parce que voilà plus grand que Victor Hugo et qu'on tire de son triomphe des conséquences absurdes. Cyrano, un magnifique anachronisme et pas plus. Rostand n'aura aucune influence sur la poésie, excepté sur les poètes médiocres qui voudront avoir du succès. C'est invraisemblable quand même.
C'est atroce.
Et il a quand même ce côté. Je n'admets pas que d'autres que Victor Hugo, parce que alors là, lui, Victor Hugo a tous les droits. Hein. D'où vient d'ailleurs cette admiration phénoménale pour Hugo?
Je crois qu'elle était tout de même assez générale, à vrai dire. Lorsque Victor Hugo est mort en 1885. Eh bien, je crois qu'il y a eu 1 million de Parisiens qui ont défilé.
Bien sûr, bien sûr.
Vous savez, de ce côté-là, il n'est pas du tout original.
Oui.
Cette admiration qui n'est plus aussi vive maintenant, n'est-ce pas? À l'époque, elle nous stupéfie maintenant. Mais c'était bien ça. Et il n'échappait pas à ce...
Alors on va venir avec vous, évidemment, Rigidel, on va venir à toutes ces grandes œuvres, et notamment à Poil de carotte, qui reste la grande pièce de Jules Renard,
ah
évidemment.
Oui.
Enfin, avant d'être une pièce, c'est un roman, d'ailleurs.
D'abord était un roman.
Ça devient une pièce, ça sera ensuite un film, c'est devenu des téléfilms. Enfin bon, bref, c'est évidemment, ça fait partie maintenant de notre... Ça fait partie de notre paysage culturel. Avant cela, quelques mots de ses origines et de sa famille. C'est Nicole qui nous envoie un mail pour nous dire, n'est-ce pas Jules Renard qui aurait écrit « Tout le monde n'a pas la chance d'être né orphelin ». Oui, c'est précisément dans Poil de carotte et c'est tout son problème d'une certaine manière.
C'est ça. Oui, parce que voilà ce qui s'est passé. Je crois que le drame de Jules Renard, c'est peut-être pas le seul, mais enfin c'est à l'origine, me semble-t-il, de son comportement général. C'est tout de même que c'est une enfance malheureuse. Il pensait que sa mère ne l'aimait pas. C'est peut-être pas absolument faux. et rien n'est pire pour un enfant que de sentir qu'il est celui qui est le moins aimé
Son père lui a dit qu'il était venu par accident déjà. L'a marqué.
Déjà par accident.
Ouais.
Et alors par ailleurs, c'est un enfant qui est né alors que déjà ses parents ne s'entendaient plus. À l'époque, ils ne divorçaient guère, mais sinon, les parents se chamaillaient, etc. Donc, il est né par accident de parents qui déjà ne s'entendaient pas, n'est-ce pas? Même à un certain moment, les deux époux correspondaient par billet écrit, parce qu'ils ne voulaient même plus se parler. Alors, vous comprenez, dans des conditions pareilles, cet enfant...
C'est l'enfant du désamour,
l'enfant
d'une certaine manière.
Oui, c'est exactement.
Et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher l'origine de cette extraordinaire lucidité et de ce regard sans concession qu'il porte sur les autres, mais aussi et d'abord sur lui-même. Il ne s'aimait pas, finalement, ce Jules Renard. Et en même temps, il aimait bien le personnage qu'il aurait pu devenir. C'est tout le paradoxe,
voilà,
bien
voilà,
entendu.
Exactement. Ouais. On assiste à un dédoublement continuel de celui qu'il aurait voulu être et de celui qu'il a été.
Exactement. Alors, évidemment, tout ça transparaît dans Poil de carotte. On peut dire que c'est un roman, puis une pièce, essentiellement autobiographique.
Absolument. Et parce que nous avons beaucoup parlé de sa mère qui ne l'aimait pas. Mais il faut dire que le père, lui-même, l'aimait peut-être, mais enfin, il ne le disait absolument pas. Et c'était un homme bourru. Et son père et lui ne se parlaient pratiquement pas. Vous vous rendez compte, cette solitude profonde dans laquelle il a vécu toute son enfance. De toute façon, il y a un trait caractéristique. À 11 ans, il va en pension à Nevers, c'est-à-dire loin de chez ses parents. Et au lieu de se réjouir de venir en vacances chez eux, il y a un certain moment où il... Je ne sais pas si c'est pas dans le... je sais pas s'il en parle pas dans le journal. Enfin, à un certain moment, il dit qu'il préférait rester dans sa pension plutôt que d'aller en vacances en famille pendant l'été. Ouais, oui.
Il y a ce côté foncièrement misanthrope et peut-être avec une pointe de complaisance pour son propre malheur, d'une certaine façon. Il écrit dans son journal, il parle beaucoup de poils de carotte, il dit « Poils de carotte surtout est un mélange déplaisant où je ne trouve plus les joies passées. C'est plutôt qu'une œuvre, l'étalage d'un esprit loqueteux où l'on rencontre un peu de tout. » C'est terrible. Et il dit « Poils de carotte est un mauvais livre, incomplet, mal composé, parce qu'il ne m'est venu que par bouffer. » C'est presque pousser un peu loin l'autocritique tout de même. Et puis alors, il va vivre très mal la célébrité de l'œuvre et tout ce qui en rejaillit sur lui-même. « Chitri », écrit-il. « C'est la première fois, mais je préférais l'incognito. Tout à l'heure, en passant devant l'auberge, j'ai entendu des gens parler fort et l'un d'eux a presque crié en se retenant tout de même « Poil de carotte ». Est-ce que je serai obligé un jour de me retourner et de répondre « Et vous, comment vous appelle-t-on, poil de voyou ou crapule ? Est-ce que poil de carotte va recommencer et me rendre ce pays inhabitable ? Dire que si jamais j'ai 80 ans et que je sois obligé d'être un maire à poigne, les gamins me courront après en m'appelant poil de carotte ?» c'est presque devenu pour lui un objet d'exécration, finalement.
Oui, mais ce qu'il y a de plus drôle, quand même, et voyez, il n'est pas une contradiction près, cet homme-là, parce que dans son journal, quand il part de lui-même, vous avez remarqué, Franck, il s'appelle Poil de Carotte.
Oui, d'ailleurs, hein,
Oui, alors, donc, de sorte qu'il ne déteste pas tellement ce surnom, puisqu'il en use pour parler de lui-même, et d'une manière tout à fait naturelle. Je vous dis, c'est un perpétuel dédoublement.
Alors, il n'a pas écrit que Poil de Carotte, évidemment. Pour le théâtre, il a écrit Le Plaisir de Rompre.
Ah oui.
Le Pain de Ménage, voilà. Qui a été un très grand succès, quand même, Le Pain de Ménage.
Oui, et le Plaisir de Rompre.
1898.
Oui. Et Le Plaisir de Rompre aussi. Là encore, c'est de l'autobiographie. Lorsqu'il avait 19 ans, il était devenu l'amant d'une pensionnaire de la Comédie-Française qui avait une dizaine d'années de plus que lui. Mm-hmm. Alors, lorsqu'il a voulu faire une fin et se marier, il a été avec
son acte. Elle s'appelait Danielle Daville, cette dame.
Danielle Daville, penseuse de la Comédie-Française. Eh bien, comme il voulait épouser cette marinette-là, eh bien, il a fallu qu'il rompe avec sa maîtresse. Et alors, Le Plaisir de Rompre, c'est le dialogue assez émouvant entre cette maîtresse qu'il est obligé de quitter et lui. Et il y a un dialogue là qui est très sensible, très beau. Ça a eu un succès considérable.
Oui, parce que cet esprit pénétrant n'avait pas échappé aux contemporains, bien entendu, qui aimaient en lui trouver une sorte de miroir de leur propre questionnement. On était vraiment dans cette période de la Belle Époque où toutes les grandes institutions commençaient à se craqueler un peu, à vaciller. Alors il y avait toutes sortes de critiques possibles. Ça pouvait aller du vaudeville de Feydeau et jusqu'à certaines critiques qui étaient carrément anarchistes et très violentes. On peut dire qu'il est un peu à mi-chemin, finalement, Jules Renard.
Seulement, dans Le Plaisir de Rompre, je tiens à souligner une chose. Malgré cette lucidité, cette acidité dont vous parlez, malgré tout, il réussit à être extrêmement émouvant. Il est délicat, il est sensible. Et c'est grâce à ça, précisément, qu'il a réussi.
Mais parce que, voilà, vous faites très bien d'employer ces deux épithètes. Évidemment, si aujourd'hui encore Jules Renard fait partie de nos références, c'est parce qu'il était délicat et c'est parce qu'il restera à jamais sensible.
Ce devait être pour hier, mon ami de Cana, il était prêt, il n'attendait que sa fiancée, elle n'est pas venue. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage.
Maurice Ravel sur Europe 1, un extrait de Mélodie, Le Pan, tiré des histoires naturelles de Jules Renard. Jules Renard, dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Henri Gidel, biographe, qui a déjà publié de nombreuses biographies chez Flammarion, dont Feydeau ou encore Les Deux Guitry.
Et lorsque Maurice Ravel, en 1906, va donc présenter ses histoires naturelles mises en musique, il invite naturellement l'auteur, et c'est sa femme et sa fille qui y vont, parce que lui, ça l'amuse pas tellement, cette musique. Et pourtant, les histoires naturelles, elles occupent une place essentielle dans l'œuvre, on peut le dire, Henri Gidel.
Oui, on peut dire que les histoires naturelles sont restées. J'engage les auditeurs à lire ce livre, parce qu'il comporte des espèces de bestiaires, ou si vous voulez, de zoologie, pour être moins pédant, de zoologie des animaux, et il s'efforce pour chaque animal de trouver une formule la plus brève possible qui le décrive d'une manière précise.
Et c'est presque des haïkus, hein. Il y a le sens de la formule très brève chez Jules Renard.
Je crois qu'il travaille pas. Ce sont des instantanés,
voilà,
n'est-ce pas? Ce sont des instantanés, des rêves minutes.
Exemple.
Alors quelques exemples. Le papillon, ça je trouve ça charmant. C'est un billet doux plié en deux à la recherche d'une adresse de fleurs.
Le papillon, un billet doux, plié en deux, à la recherche d'une adresse de fleurs.
Oui, c'est un petit peu précieux, mais c'est charmant. Oui, alors il y a aussi le ver luisant. Que se passe-t-il? Il est 11h du soir et il y a encore de la lumière chez lui. C'est charmant. Il y a aussi le ver à soie qui file en mauvais coton. Et il y a aussi, sur la route, voici le pensionnat des dindes. Vous voyez, le défilé de ces animaux. Vous voyez? Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi l'araignée, une petite main crispée sur des cheveux.
Ah ouais,
n'est-ce pas? Et le cafard noir est collé comme un trou de serrure. Vous voyez? Bon, toutes sortes de descriptions d'animaux qui sont
toujours ce regard. Drôle. Finalement, s'il fallait retenir de Jules Renard quelque chose, c'est peut-être cette acuité extraordinaire du regard. Il voit ce que d'autres ne voient pas, il ouvre l'œil. Tout est neuf sous sa plume et sous son regard.
Absolument.
C'est assez étonnant. Alors, il a écrit aussi sur la campagne, bien entendu. On voit que tout cet univers rural a joué un rôle essentiel pour lui. Notamment, il est l'auteur de Nos paysans. On parle jamais de ce livre, mais
oui, c'est... alors il y a une inspiration rurale ou rustique, si on veut.
C'était l'époque, il y avait Francis Jammet, tout ça aussi, hein, qui avait quand
oui,
même...
Oui, absolument. Mais lui, il étudie les paysans d'une manière assez curieuse. Il étudie les paysans comme un peuple exotique. Il est un peu le Lévi-Strauss des campagnards.
C'est l'ethnographe de la campagne.
Mais attendez, mais en même temps, lui, il est écartelé entre le monde paysan et le monde urbain, parce qu'il est à la fois parisien et nivernais. Et alors, il étudie également les parisiens, les intellectuels parisiens, ça serait un peu le Saint-Germain-des-Prés actuel, si vous voulez, comme une espèce de tribu sauvage qui a ses mœurs et qui, après tout, aussi intéressante que les tribus exotiques du Nivernais. Alors, il a dit quelque part, la formule est très jolie, il est le Loti cantonal.
Oh,
seulement au lieu que... Alors il dit pourquoi...
Il faut dire que Pierre Loti était la gloire de l'époque. Avec ses lointains orients.
Ses lointains voyages, c'est-à-dire le Japon, etc. Et lui, il dit pourquoi aller si loin? Je trouve ça admirable. Pourquoi aller si loin? Alors, ces observations que vous pouvez faire, vous pouvez très bien les faire autour de vous. Hein. Le Loti cantonal, ou municipal même, il a dit aussi.
Oui, et d'ailleurs, il sera maire de Chitry vers la fin de sa vie. Et il est très fier de ça.
Oui, et encore une contradiction du personnage. Il méprise les ambitions mesquines, etc. Ouais. Mais
il
fait tout pour avoir la Légion d'honneur.
Oui, c'est ça. Il a deux obsessions, c'est la Légion d'honneur. Et l'Académie française. Pour un anarchiste,
puis,
c'est bizarre.
Il n'en a rien à faire d'être conseiller, mais il veut absolument être maire.
Il veut mettre sa belle écharpe tricolore.
On s'étonne qu'un homme.
Bref, un très fort besoin de reconnaissance, Henri Gidel, finalement.
Oui, exactement.
C'est ça.
Vous avez mis le doigt sur la plaie. Hein. Il a jamais été reconnu pour ce qu'il était, et il choisit ces petites choses ridicules, mairie, Légion d'honneur, etc., parce que jusqu'au bout, il aura besoin de ça.
Alors, c'est un politiquement, on peut dire qu'il est, il est très à gauche, il est très militant. Alors, c'est un anticlérical farouche, c'est tout à fait commun à cette époque-là.
Oui, 1905, hein, la loi au moment de la séparation des États.
Exactement.
Oui,
absolument. Il est, il se veut socialiste, et alors il admire beaucoup deux personnages en particulier, que sont Jaurès et Blum.
Voilà, c'est ça. Alors, mais ce qui n'empêche pas que parfois il peut les crucifier à l'occasion. Et quant à lui, il s'épargne pas. Il dit ah, être socialiste et gagner beaucoup d'argent.
Oui, c'est ça, c'est quand même. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'a rien d'un nationaliste à une époque où le nationalisme est poussé à son comble. Hein. Au fond de tout patriotisme, il y a la guerre, dit-il. Il écrit ça quand même 15 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Oui. Et voilà pourquoi je ne suis point patriote. Donc il admire Blum. Et Jaurès, qu'il va rencontrer régulièrement, il va même faire paraître un compte dans le premier numéro de l'Humanité, ce qui prouve que les rapports qu'il entretenait avec Jaurès étaient déjà assez, assez développés. Et il admire chez ces deux personnages d'abord leur culture. Il admire notamment celle de Léon Blum qui peut, dit-il, réciter durant 2 heures d'horloge du Pascal, du La Bruyère, du Saint-Evremond, etc. Ça, ça le fascine évidemment. Et de même, en Jaurès, il note une intelligence très cultivée, là on est en 1901, ce qui ne l'empêche pas d'en dresser un portrait quand même assez vachard, en tout cas sur un plan physique. Hein. Voilà ce qu'il dit de Jaurès. Jaurès a l'aspect d'un professeur de quatrième qui ne serait pas agrégé et ne prendrait pas assez d'exercice, ou du gros commerçant qui mange trop. C'est quand même...
Oui, d'accord.
Hein, c'est quand même assez... Il ne peut pas s'empêcher toujours.
Il ne peut pas s'empêcher de critiquer. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir une admiration générale.
Alors, cet engagement à gauche va faire de lui un des acteurs, un petit peu malgré lui, d'une certaine manière, mais tout de même, un des acteurs de l'affaire Dreyfus. Là, il joue un rôle important hein, dans cette affaire Dreyfus.
Dans
cette affaire
l'affaire Dreyfus, oui, il se déclare carrément pour la révision du procès Dreyfus. Oui, il est Dreyfusard, oui, absolument. Oui.
Il fait son propre j'accuse, si l'on peut dire. Hein. On est le 23 février 1898, ce qui veut dire quelques jours seulement après la célèbre condamnation du j'accuse de Zola. Et il écrit « Zola est condamné à 1 an de prison et 1 000 francs d'amende. Et moi, je déclare que je suis écœuré à plein cœur, à cœur débordant par la condamnation d'Émile Zola, que je n'écrirai plus jamais une ligne à l'Écho de Paris. » Que Monsieur Fernand Xo est physiquement un des plus petits hommes que je connaisse, mais qu'à force de platitude dans ses déclarations à ses abonnés, il arrive à me paraître encore plus petit. Qu'ironiste par métier, je deviens tout à coup sérieux pour cracher à la face de notre vieux pantin national, Monsieur Henri Rochefort. Que le professeur d'énergie Maurice Barrès n'est qu'un Rochefort de plus de littérature et de moins d'aplomb, et qu'il fera tant que les électeurs ne voudront plus de lui pour conseiller municipal enfariné. Que Monsieur Drummond n'a aucun talent, aucun, et qu'on s'apercevra que le joujou antisémite se cassera dans la main, que si le Figaro ne se hâte pas de s'appeler le Bartolo, l'ombre de Beaumarchais ne peut manquer de venir lui tirer les oreilles, que fiers de lire dans leurs textes les Français Racine, La Bruyère, La Fontaine, Michelet, Victor Hugo, j'ai honte d'être sujet de Méline, et je jure que Zola est innocent, et je déclare que je n'ai pas de respect pour nos chefs d'armée qu'une longue paix a rendu fiers d'être soldats. Et un peu plus loin, dans cette espèce d'article incroyable, mais dont le paradoxe, une fois de plus, est qu'il n'est pas destiné à être publié, puisqu'il s'agit d'un journal intime. Oui. Hein. Zola est un homme heureux, écrit-il. Il a trouvé sa raison d'être. Allez, un petit peu de jalousie qui pointe, là. Et il doit remercier ses pauvres jurés qui lui font un cadeau d'une année d'héroïsme. J'acquitte Zola. Loin d'organiser le silence autour de lui, il faut crier « Vive Zola !» Il faut... hurler ce cri de toutes nos profondeurs. Il y a du Voltaire chez Jules Renard, mais du Voltaire en chambre.
Oui, absolument. Toutes ces déclarations restent inconnues du public.
C'est ça, c'est un peu terrible. Autant de talent, autant de sain emportement, parce que la colère là est magnifique.
Oui.
Mais tout ça, on a un peu envie de dire quand même pas pour grand chose.
Mais là encore, nous sommes dans une perpétuelle contradiction.
Eh oui. Alors, il aura publié énormément d'ouvrages. On a parlé, j'ai dit un mot de quelcu-uns, hein, de Poil de Carotte. On n'a pas parlé de L'Écornifleur, qui a quand même joué un rôle important. C'est sa première œuvre, en fait.
C'est sa première œuvre et c'est un roman ça a d'abord été un roman. Ensuite, ça a été une pièce qui s'est appelée Monsieur Vernet. Et là encore, c'est de l'autobiographie. Non, corps et
les qu'est-ce que ça veut dire un écorniqueur?
Oui, justement, l'écorniqueur, c'est un mot qui n'est plus guère employé. Ça veut dire un parasite.
Oui, voilà.
Un parasite, simplement.
Quelqu'un qui vit sur le talent des autres, en quelque sorte. Oui.
Oui. Alors, cet écornifeur qui est, c'est un jeune poète qui profite de son prestige d'artiste pour s'introduire dans les familles et y faire les et en profiter au maximum.
Juste avant les cornifleurs, il avait publié un ouvrage qui s'appelait Sourire pincé. Tout est dit dans ce titre. Merci beaucoup Henri Gidel. Je rappelle toutes vos biographies de Picasso, de Marie Curie, de Coco Chanel, de Feydeau bien entendu, des De Guitry. Merci d'avoir fait revivre Jules Renard.
Je
dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Cédric à propos de l'origine du point zéro situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Cédric qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il aimerait connaître l'origine du point zéro situé devant Notre-Dame de Paris.
Puisqu'on parle géographie, j'aimerais bien que nos auditeurs nous disent d'où ils nous écrivent. D'ailleurs, ce serait bien, comme ça on saurait d'où viennent toutes ces questions. Alors là, le point zéro, c'est le point kilométrique zéro de toutes les routes qui partent de Paris. D'ailleurs, entre parenthèses, quel centralisme toujours, cette espèce d'étoile autour de Paris. Pourquoi sur le parvis de Notre-Dame? Eh bien parce que pendant très longtemps, les parvis des cathédrales ont été considérés un peu comme le nombril des villes. C'est là que se passaient tous les événements très importants, vous savez. Et quand on cherchait l'endroit le plus central d'une ville, aujourd'hui on aurait tendance à placer ça sur le perron de l'hôtel de ville, bien à l'époque, signe des temps, c'était plutôt le parvis des cathédrales. Et celui qui, pour répondre à Cédric, celui qui a eu l'idée d'installer ce point zéro, c'est le roi Louis XV. On est en 1769 et Louis XV fait installer ce point zéro sur le parvis de Notre-Dame. Faut vous dire que on est dans ce règne de Louis XV à l'époque des géographes, la carte de Cassini, cette carte magnifique à l'échelle 1/86/400 est la première carte générale du royaume de France. C'est une incroyable innovation à l'époque. Et quelques années plus tard, en 1786, le point zéro sera matérialisé par une borne. Et cette borne, elle va rester pendant très longtemps puisqu'elle ne va être remplacée par celle que nous voyons aujourd'hui, cette espèce de rose des vents, vous savez, en granit là, qui est aujourd'hui sur le parvis de Notre-Dame. Cette rose des vents, elle ne date que de 1924. Alors, ce qui est très amusant, bien sûr, c'est d'aller regarder, quand on est sur ce point zéro, à quelle distance se situent les autres villes de France. Eh bien, par exemple, vous apprenez que Paris est à 770 km de Marseille, à 465 de Lyon, 678 de Toulouse, 591 de Brest, 221 km seulement de Lille, ou encore 488 km de Strasbourg.